Les livres sont là pour vous changer les idées, nous faire voyager, nous faire réfléchir. Et ce n'est pas Christelle et Sylvain, libraires indépendantes à Saint-Gaudens, qui vont vous dire le contraire. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Ah, nous commençons avec Sylvain.
Oui, alors je vais vous parler, comme d'habitude, de deux livres aujourd'hui. Donc un livre grand format qui est sorti il y a quelques semaines, un jeu sans fin de l'immense écrivain américain Richard Powers, donc aux éditions Actes Sud. Alors, quelques mots, Richard Powers, il est connu, hein, c'est un écrivain contemporain américain majeur. Hein, son dernier livre que j'avais absolument adoré, je crois que j'en avais parlé, s'appelait « Sidération ». Il a écrit également L'Arbre Monde, La Chambre aux Échos. Bref, il a déjà une œuvre conséquente. Et là, il revient avec un livre absolument magistral. Alors, Un jeu sans fin, c'est avant tout un roman choral. Vous suivez sur plusieurs personnages et sur plusieurs époques. Vous allez d'abord suivre, et le livre s'ouvre là-dessus, vous allez d'abord suivre une jeune femme, Ina, qui est polynésienne, puisque une grande partie du roman se passe en Polynésie française, sur une île du Pacifique, Makatea. Et cette jeune femme est artiste et elle ramasse donc des déchets de plastique, des morceaux de plastique, pour en faire des sculptures et des œuvres d'art. Donc on la suit dans cette première chose. On suit également sur une autre période, beaucoup plus avant, on suit deux jeunes lycéens puis étudiants américains qui s'appellent Todd et Rafi, qui sont amis, qui font des études ensemble et qui sont passionnés de jeux, de Go, et l'un est également passionné du début du codage, hein, et du début de l'informatique. Il va d'ailleurs même en faire son métier et il va même faire fortune en développant des produits d'intelligence artificielle. Donc il y a tout le cheminement de ces deux personnages. Et puis on suit également un personnage éminemment intéressant et fascinant, Evie. Alors elle est océanographe et elle est canadienne, et depuis toute jeune, elle est passionnée par les océans et notamment par le travail du commandant Cousteau. Et donc elle va, elle plonge régulièrement et elle fait des ouvrages sur les fonds marins. Voilà un petit peu planter le décor, et vous allez suivre un petit peu tous ces personnages qui vont venir en lien. Mais également, c'est un très grand roman parce que il va y avoir également une histoire dans l'histoire, puisque cette île Makatea, c'est un petit timbre-poste, hein, dans l'immense océan Pacifique. Mais il se trouve que cette île où 82 habitants vivent, dont Ina et Rafi, est confrontée à un projet néfaste. C'est un milliardaire souhaite construire une île flottante pour développer une activité sur cette île. Et on demande aux habitants de cette île de se concerter et d'accepter ou non ce projet complètement fou pour le développement de cette île compte tenu de la taille. Donc c'est à la fois un roman écologique. Alors, comme souvent, hein, Richard Powers, dont moi j'admire énormément l'œuvre, c'est pour moi un très 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 grand romancier, parce que vous avez à la fois un roman, vous vous attachez au personnage, vous avez une histoire, vous avez une narration, vous êtes surpris de chapitre en chapitre, et en même temps, il y a tellement de fond. Il va aborder la question du jeu de Go. Notamment, vous avez un développement sur le principe du jeu de Go, auquel je ne joue pas, mais c'était très intéressant. Le développement de l'informatique, l'intelligence artificielle, la pollution, la vie dans les îles du Pacifique. C'est un grand roman écologique, bien sûr. Hein. Il a un engagement écologique. Donc bref, c'est poétique, romanesque, intelligent, ça vous fait réfléchir, c'est de la très grande littérature. Et je serais tenté de dire, quand vous voyez arriver ce genre de livre sur vos tables, dans le monde actuel, hein, un petit peu d'intelligence, un petit peu d'écologie et un petit peu de sensibilité venant des États-Unis, le gouvernement en place ne nous y habitue pas, son président encore moins. Et donc vraiment, quand vous voyez arriver un livre de Richard Powers, vous vous jetez dessus, ce que j'ai fait. Et quand vous lisez ça, vous vous dites mais quelle intelligence, quelle analyse, quel finement. Et puis, j'insiste, c'est un très 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 grand romancier. Donc c'est un roman qui fait à peu près 400 pages, hein, mais qui est vraiment, qui peut accompagner votre été, parce que vraiment vous allez y trouver énormément d'éléments une très belle écriture, une très grande poésie, un très grand roman et des personnages auxquels on s'attache, notamment Evie, cet océanographe, c'est passionnant. Il décrit le travail des océanographes, il y a des passages sur les raies manta qui sont absolument prodigieux. Bref, vous l'avez compris, j'ai adoré ce livre, je le conseille et vraiment, vraiment, si vous partez en vacances, emmenez ce livre, vous allez partir très très loin, où vous soyez. Voilà, donc je répète le titre. Richard Powers, Un jeu sans fin, aux éditions Actes Sud.
Merci Sylvain, on vous retrouve dans un instant pour votre second choix, Christelle.
Alors, moi pour mes deux choix de cette semaine, on va partir en Espagne. Et puis, moi j'ai décidé également pour le mois de juillet de revenir en fait sur des coups de cœur que j'ai eus en ce premier semestre et notamment des coups de cœur de premiers romans. Et j'essaierai également de mettre en avant ce que l'on peut appeler peut-être des classiques ou en tout cas des romans que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, le premier roman dont je vais vous parler, c'était un de mes gros coups de cœur de la rentrée de janvier, avec ce titre et cette couverture magnifique, toute rouge avec un cœur notamment, qui s'appelle Carcoma de Leila Martinez aux éditions du Seuil. Donc, comme je le disais, vraiment un gros coup de cœur par sa force, par son style et tous les sujets qui sont abordés dans ce court roman. Alors, comme je disais, direction l'Espagne. L'Espagne et sa campagne, un village et surtout une maison. Une maison au fort caractère. Une maison qui n'est pas du genre à cacher ses émotions. Une maison qui semble même faire la loi. Et dans cette maison, on va suivre quatre générations, quatre histoires différentes, mais toutes empreintes de violence. La narration alterne entre la grand-mère et sa petite-fille. Et l'une comme l'autre vivent de peu de choses et surtout elles sont rejetées par le reste du village. Elles sont rejetées, considérées comme de prétendues sorcières du passé. Elles provoquent à la fois attirance et rejet. Et entre ces femmes et le village, eh bien, ce sont plusieurs luttes qui se jouent. Celle pour un certain féminisme, entre guerre d'Espagne et époque contemporaine, mais aussi celle des classes sociales, entre pauvreté et précarité versus opulence et supériorité. Car dans ce récit, un enfant a disparu. Et cet enfant qui a disparu, il est de cette famille bourgeoise dans laquelle la petite fille fait la babysitter. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Encore une fois, un premier roman surprenant avec ces histoires de haine féroce et de vengeance, dont l'un des principaux personnages, encore une fois, est la maison. Alors juste pour terminer, c'est vrai que il y a du Mariana Enriquez, je trouve aussi dans ce roman, car Carcoma mêle parfois un peu le surnaturel à une critique sociale acerbe au vitriol. Et je pense que la maison devient une sorte de microcosme de la souffrance transgénérationnelle et des oppressions. Voilà, donc vraiment c'était un gros coup de cœur du début d'année. Je continue de le mettre en avant je pense que l'été peut être aussi un bon moment pour découvrir voilà, de nouvelles, en l'occurrence là, une nouvelle autrice, en tout cas une première traduction en France aux éditions du Seuil, Carcoma, Leila Martinez.
Merci Christelle. Dans un instant, nous allons vous retrouver vous aussi pour votre second choix. Sylvain.
C'est la magie des livres. Là, je vais vous parler d'un poche qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc de Karim Misquet qui s'appelle La Situation aux éditions Point Poche. Donc, alors. Là, autre ambiance hein, par rapport au livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on est à Paris, ou dans la région parisienne en tout cas. On est en 2030 et on est dans un enfer en fait. Hein. Vous avez une guerre civile qui a éclaté en France entre des milices d'extrême droite qui ont trouvé l'appui d'une partie de la police et de l'armée et qui occupent une partie du territoire et une autre faction qui sont plutôt des mouvements progressistes ou d'extrême gauche et qui eux résistent et occupent également une autre partie du territoire. Et donc c'est une lutte armée. Et au début du livre, on découvre donc un personnage qui s'appelle Kamel Kassim, qui est un scénariste. Et lui, il est confiné chez lui, bloqué chez lui, parce qu'il est terrifié par ce qui se découvre sous ses yeux, et notamment une tuerie qui a lieu dans un café au pied de son immeuble. Sauf que il va être obligé d'en sortir parce que cette tuerie, elle va le toucher de près. Et puis, en même temps, voilà, il veut aller voir quand même. Et il va être sur un malentendu, embarqué un petit peu dans une histoire où on va l'accuser de traîtrise et il va être aussi, il va sentir le besoin d'aider une personne du camp d'en face par rapport à un échange qu'il a eu avec cette personne. Et donc il va se lancer parce qu'il est vraiment menacé dans son existence et il va se lancer dans une course-poursuite. Alors c'est un roman assez court, hein, un peu plus de 200 pages. C'est vraiment très nerveux, très très bien mené. Vous êtes sur une dystopie. Donc vraiment, on imagine une situation extrêmement tendue avec barrage, avec violence, avec peur. Et vous ressentez la peur et la menace, l'arbitraire aussi. C'est vraiment, je trouve, un polar particulièrement marquant, original, parce que, bah voilà, en même temps, il vous fait réfléchir sur, voilà, sur un petit peu ce que peut devenir un pays à partir du moment où on arrête de se parler et ce sont les armes qui parlent et à partir du moment où des groupes armés prennent le contrôle d'une situation. D'ailleurs, ce qui est une situation qu'on vit dans, malheureusement, un certain nombre de pays. Là, il l'a juste projeté sur la France, la région parisienne, année 2030. Et donc, c'est ça qui rend le récit particulièrement glaçant quand on le lit. Mais c'est très bien mené. C'est très prenant. Je ne vous dis pas le devenir ou la fin du livre, parce qu'il faut vraiment la découvrir à la lecture. On est très pris avec ce personnage. On s'y attache. Hein. On s'attache beaucoup à Kamel Kassim, et qui est vraiment une belle personne et qui a un projet plutôt noble de sauver une personne et de sauver notamment un couple. Mais voilà, va-t-il y arriver ? C'est tout l'enjeu de ce roman. Donc je répète, hein, La Situation, Karim Misquet, aux éditions Point Poche.
Merci Sylvain. Christelle ?
Alors, comme je vous disais, je vais vous parler tout ce mois de romans que j'aime particulièrement, mais qui sont donc peut-être à considérer déjà comme des classiques. Alors, pour aujourd'hui, donc, il s'agit de 10h30 du soir en été de Marguerite Duras en folio. Donc, c'est un roman qui date, je crois, de 1960. Donc, oui, il a déjà quelques années. Alors, pour moi, c'est vraiment un coup de maître. C'est 150 pages de pur bonheur avec une puissance d'écriture, une économie de moyens et pourtant, toute l'attention est là, prégnante, permanente, de la première à la dernière page. Alors, comme je disais, tout se passe également en Espagne sur quelques heures. C'est l'été, il fait chaud. Maria, Pierre, son mari, leur fille, Judith, et une amie, Claire, voyagent à travers l'Espagne. Ils s'arrêtent dans une petite ville pour y passer la nuit et ils apprennent qu'un drame a eu lieu, puisque Rodrigo Paestra a tué sa femme et son amant après les avoir surpris ensemble. Alors Maria est littéralement fascinée par ce crime passionnel qui fait étrangement écho à ses propres questionnements sur son mariage, puisque Pierre entretient une relation extrêmement ambiguë avec Claire et cette tension dans le couple formé par Maria et Pierre est vraiment portée à son paroxysme grâce à l'écriture, pour moi, inimitable de Duras. Donc c'est un roman sensoriel à l'excès, puisqu'on sent, là ça va nous parler ces jours-ci, mais on sent la chaleur suffocante de l'été, l'ambiance électrique générée par l'orage, la passion amoureuse, les excès d'alcool avec les manzanillas aux lèvres de Maria. Maria qui plonge dans une introspection profonde, qui s'identifie à Rodrigo, qui, cet homme qui, dans son acte violent, semble avoir exprimé une passion qu'elle-même n'arrive pas à vivre. Donc tout n'est que jeu d'ombre et de lumière. Et encore une fois, pour moi, ce roman est vraiment une réussite absolue. Pour moi, un des meilleurs de Duras, qui construit ici une narration située dans un décor olfactif, visuel, corporel. Bref, comme je disais, un coup de maître. Alors, on est assez impatient d'en parler, puisqu'on va en parler avec notre club de lecture et à la librairie. Et j'ai hâte d'entendre les avis des unes et des autres, parce que c'est vrai que Duras a rarement fait l'unanimité. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant. Et peut-être juste pour illustrer quand même cette plume inimitable, si vous le permettez, je vais lire quelques lignes de ce roman incroyable. Dans un couloir encore assombri, dans un étirement douloureux qui suit une mauvaise nuit, Claire doit saluer le jour qui se lève sur leur amour. Et puis, elle se rendort. Il dort. Maria se relève, prend dans la poche avant de la portière le flacon de cognac. L'alcool, à jeun, remonte dans la gorge, brûlant, familier, dans une nausée qui réveille. Le soleil. C'est ça le soleil, à l'horizon. Le froid diminue d'un seul coup. Les yeux font mal. Il y a presque une heure qu'il s'est endormi. Le soleil balaye son corps, entre dans sa bouche entrouverte, et ses vêtements commencent à fumer légèrement comme un feu mal éteint. Ses cheveux aussi fument, fumée très ténue d'un feu délaissé. Il ne sent pas la lumière encore. À peine ses yeux frémissent-ils, mais ses paupières se scellent sur le sommeil. Voilà, bon, moi j'adore. Donc 10h30 du soir en été de Marguerite Duras, 150 pages de bonheur en folio.
Merci Christelle. Donc pas d'animation pendant l'été à la librairie L'Indépendante à Saint-Gaudens, ça reprendra en septembre,
non? Non, on réserve. Non, on réserve une petite surprise pour fin août, mais on vous en dit un peu plus peut-être dans 2 semaines.
Très bien, suspense. Merci Christelle.
Avec plaisir. Merci, Eric.
Merci, Sylvain.
Merci, Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à L'Indépendante à Saint-Gaudens. Merci.